marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous ?
Christiane Desroches-Noblecourt, la marraine de Toutankhamon.
Il y a quelques semaines, un avion militaire arrivait à Paris chargé d'une partie du fabuleux trésor de Toutankhamon. D'infinies précautions ont entouré le voyage de ces reliques, qui sont au nombre des plus rares merveilles de l'Égypte de toujours. Confié à la France et à Madame Desroches-Noblecourt, l'un des grands égyptologues de ce temps, certaines pièces de cette collection inestimable vont être présentées au Petit Palais. Elles permettront à Paris de découvrir les fastes de la 18e dynastie.
Les services de presse aujourd'hui font déjà beaucoup parler de la nouvelle exposition à venir qui va s'ouvrir autour de Toutankhamon à la Grande Halle de la Villette. Mais l'exposition fondatrice de 1967 faisait parler d'elle sans le secours des services de presse un an à l'avance. Ce n'était pas comme aujourd'hui une vaste opération commerciale pilotée par une entreprise américaine organisatrice d'événements sportifs et de divertissement et qui élit un moment Paris à l'occasion d'une tournée mondiale de 10 étapes. Le déplacement des objets de la première tombe royale qu'on n'ait jamais trouvée intacte avait été décidé dès 1965 par le gouvernement du Caire, mais c'était une opération politique bilatérale initiée par Malraux et qui permettait un rapprochement entre De Gaulle et Nasser. Déjà en 1966, Paris avait connu deux expositions événements qui avaient attiré autour de Picasso et de Vermeer des centaines de milliers de visiteurs. Mais au Petit Palais, autour de Toutankhamon, il y eut 1 200 000 visiteurs et même davantage, sans compter 600 évanouissements. Le règne de Toutankhamon, à beaucoup d'égards, avait été insignifiant en clôture de la 18e dynastie, autour de 1350 avant notre ère. Mais à Paris, il avait inauguré l'ère de la culture de masse. La bonne fée, dans ces circonstances, ce fut Christiane Desroches-Noblecourt. En Égypte, elle avait su englober l'exposition dans la stratégie du grand plan de sauvetage des temples de Nubie, menacés par le barrage d'Assouan et qu'elle pilotait avec l'UNESCO. Et à Paris, cet égyptologue de terrain avait su se transformer en scénographe et en communicante, en même temps qu'en commissaire général. Il est vrai qu'elle n'avait jamais eu sa langue dans sa poche et qu'elle n'avait jamais eu froid aux yeux.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
J'avais un jour fait un bal costumé à la maison, et c'est moi-même qui avais fait les costumes en papier fripé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on vendait des rouleaux de papier de toutes les couleurs. Et j'avais fait au moins une trentaine de costumes pour toutes mes camarades de classe qui venaient, et moi, naturellement, je m'étais déguisée en égyptienne, et je marchais droit devant moi, en tournant les épaules et le visage pour avoir l'air d'être une égyptienne, parce que je trouvais que c'était vraiment extraordinaire, attrayant. Puis elles étaient si belles, et si proches de nous, ces femmes très minces, très belles, puis cette civilisation extraordinaire, on ne peut pas voir une peinture ou un dessin, et à ce moment-là, il n'y avait pas de publication en couleur. Mais quand on voyait ces scènes de la vie privée, ces chaînes champêtres, ces banquets, d'abord, encore une fois, c'est une civilisation qui est très proche de la nôtre. Et puis c'était très attrayant, très vivant. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas attiré par une beauté vivante et pas une beauté glacée, comme on aurait pu le voir au sujet de la représentation d'autres civilisations antiques?
Mais est-ce que ça n'a pas commencé en classe, tout simplement?
Si, si, naturellement. C'est un déclic, oui. Mais tout le monde vous le dit. Tous ceux qui sont attirés par l'Égypte vous disent « Ah, depuis ma sixième, je suis attiré par les Égyptiens. » Et pourtant, le Mali Isaac, en classe, on consacrait 2 leçons à l'Égypte, pas plus. Ou 3 leçons au maximum. C'était l'Orient, la Grèce. Et c'était la civilisation dite classique, et moi je pense que l'égyptienne est très classique, qui vous attirait et que l'on vous enseignait. Il n'y avait rien d'autre avant la Grèce. Et ce n'est peut-être pas la faute des professeurs d'histoire. C'est peut-être la faute d'un public qui n'était pas attiré à ce qu'il ne connaissait pas encore. Et puis surtout parce que les égyptologues n'étaient pas assez nombreux et ne publiaient pas assez, et pas du tout, des livres de vulgarisation. Alors, mais on ne connaissait rien.
À votre avis, est-ce que c'est vraiment là que tout s'est joué? C'est-à-dire, dans cette partie de l'enfance, est-ce que ce rêve a commencé à vous habiter?
Oui.
Et vous avez dit,
oui,
un jour j'irai là-bas. Ça a commencé très tôt.
Ah non. Je ne me suis jamais dit un jour j'irai là-bas, parce que cette époque-là, les jeunes de 16-17 ans ne partaient pas sac au dos pour faire le tour du monde. D'abord, mes parents ne m'auraient jamais lâché. Et ensuite, c'était pas dans la mentalité. Et moi-même, je n'avais pas, je m'excuse, mais l'audace de penser qu'un jour, où je pourrais aller en Égypte, où je pourrais même devenir égyptologue.
On aura reconnu le divan d'Henri Chapier. Christiane Desroches-Noblecourt avait évidemment été une des premières à accepter l'expérience. Comme elle était partie dès l'âge de 24 ans pour sa première mission en 1937 en Égypte.
On ne peut pas être égyptologue pour faire un métier. On aime ça. Et on lutte beaucoup parce que pour arriver à être égyptologue, il y a beaucoup, beaucoup de degrés à gravir. On y arrive. Mais même si on y arrive avec difficulté, parce que d'abord les places étaient très limitées, surtout du temps de ma tendre jeunesse, et aussi parce que ça n'était pas facile de mon temps. J'étais la première femme en France qui ait réussi, c'est pas une cocarde, mais c'est vrai, parce que c'était l'époque, il n'y avait pas encore de femmes qui abordaient ce domaine. C'était très difficile, beaucoup plus difficile que pour un homme, on n'acceptait pas de femmes. Je sais pas, on pensait que c'était peut-être trop pénible, ou absolument en dehors de la tournure d'esprit du pauvre petit cervelet d'une femme moyenne, je sais pas. Enfin, considérer que... Est-ce que c'est ça qui m'a donné... Non, j'avais un tenus en vivant, en naissant. Mais est-ce que c'est ça qui m'a permis de montrer, sans trop le cacher, que j'avais une certaine vitalité? J'ai pas voulu le montrer, je suis comme ça. Mais je dois dire que sur les chantiers de fouilles, je crève tous les copains, tous les hommes. Uniquement parce qu'ils n'ont pas la même résistance physique, c'est tout.
Alors j'ai donc été chargée de cours de langue égyptienne à l'école du Louvre et en même temps chargée de mission au département. C'était donc chargée de mission non rétribuée, car les chargées de mission au Louvre ne sont pas rétribuées. Mais on m'a dit c'est un honneur et une chance, ce qui était vrai du reste. Et j'ai continué une seconde thèse aux études de la Sorbonne sur une époque très, très difficile de la langue égyptienne entre la fin de la domination perse et l'arrivée d'Alexandre, donc presque la fin de la langue classique égyptienne. Et cette thèse étant terminée, j'ai eu la chance d'être nommée première femme membre de l'école du Caire. Il n'y avait pas eu de femme à l'école d'Athènes, on n'avait jusqu'à présent jamais voulu accepter une femme, ni à l'école de Rome, ni à l'école du Caire, pas davantage. Et j'ai eu cette chance inouïe d'être nommée la première femme membre à l'école du Caire. Alors j'ai quitté provisoirement le Louvre et mon enseignement, que j'ai laissé à d'autres. Et je suis partie en Égypte, où je suis restée à peu près 8 mois par an, pendant 2 ans, puisqu'après ça, la guerre est arrivée. Et j'ai demandé, à la fin du mois de mai 40, à rentrer en France.
Elle réussit à emprunter le dernier bateau, peut-être, qui embarque des passagers en Méditerranée, au moment de l'entrée en guerre de l'Italie, et aussitôt rentrée à Paris, via Marseille, elle se met à la disposition de son administration au Louvre.
Et le directeur du Louvre, qui était un homme remarquable, qui s'appelait Jacques Jourjat, et s'il était encore en vie, voilà un homme qui pourrait témoigner, m'a dit, ah bon, alors écoutez, en ce moment, c'est très simple, ne perdons pas de temps, vous devez aller chercher les objets de votre département qui sont en caisse, il y avait 380 caisses, dans un château de Ré-Loire, château de Courtalin. Parce que les Allemands avancent, ils vont bientôt arriver à Paris. Et il faut emmener ces caisses dans le Gers, à côté de Hoche, au château de Saint-Blancard. Parce qu'on avait réquisitionné dans le château. Ça, c'était mon département, mais il y avait bien d'autres départements qui déménageaient aussi, les peintures, la graisse, tout. Alors, à la tête de deux camions semi-bâchés et de deux chauffeurs, je suis parti à Courtalin. Nous avons chargé les caisses et on a fait 3 voyages. Jusqu'à Saint-Blancard, alors je vous passe les aventures, car on était en pleine débâcle. On est même passé sous des bombardements, c'était pas drôle. On bombardait, vous savez, à quelques 50 mètres. Et ben, le troisième voyage a été encore plus homérique et épique. Et c'est en remontant de Saint-Blancard et en reprenant mon poste au Louvre, que j'ai été revoir Jaujard, le directeur du Louvre, un des seuls fonctionnaires français qui soit resté en place au moment de l'arrivée allemande. Il avait évacué à peu près tout le monde, mais il avait dit je resterai là et je défendrai pied à pied mon musée. Et du reste, il a été salué par un officier de la Wehrmacht, pas un nazi,
qui lui a dit « Monsieur, je suis navré de vous féliciter, vous êtes un des seuls grands hauts fonctionnaires français qui soit resté en place. » Malheureusement, c'était vrai. Jean-Jacques était un homme remarquable. Alors j'ai été le voir tout de suite en lui disant « Voilà, je suis à votre disposition. » Je sors du bureau de Jean-Jacques et je rencontre Jean Cassou devant le monument de Gambetta qui n'avait pas encore été fondu par les Allemands. Elle me dit « Je suis très heureuse de vous revoir. Alors comment ça s'est passé votre évacuation ?» Ben, je lui raconte et puis je lui dis bien ce que je pense. Il me dit « Ah, vous êtes heureuse de voir Pétain ?» Je lui dis « Absolument pas. » Il me dit « Il faudrait que je vous parle sérieusement. » Écoutez, nous sommes plusieurs amis qui nous sommes réunis hier. C'était fin juin, début juillet 40. Est-ce que vous voulez être des nôtres ? Jean Cassou, devant le monument de Gambetta. Alors je lui dis, mais de quoi s'agit-il ? Oh ben, il dit, nous allons résister, hein, l'appel du 18 juin. Je dis, oui, ça, cet appel à raconter. Il dit, bon, vous êtes bien d'accord. Alors vous êtes des nôtres ? Alors je lui dis, ça consiste en quoi ? Ah, il me dit, ça... Ça vous fait le sacrifice de votre vie, vous verrez bien si j'espère qu'on y passera à travers les mailles. Alors je lui dis, écoutez, laissez-moi réfléchir jusqu'à demain. Je me rappellerai toujours ce jour-là, je n'ai vraiment pas dormi. Hein. J'ai fait le compte, je me suis dit, oui, il y a ça, mais on ne peut pas hésiter. Et le lendemain, je l'ai retrouvé. Je lui dis, bon, d'accord. Et nous avons commencé à nous réunir. Et nous avons décidé que ce mouvement s'appellerait Résistance. Et nous avons fait le premier tract, le premier journal des résistants qui s'appelait Résistance. Et alors, on réunissait tout ce qu'on pouvait réunir comme nouvelles, et pas mal de tuyaux déjà, qu'on envoyait toutes les semaines à Londres. Et un jour, c'était peut-être le second mois, ça devait être en novembre, au début novembre, Claude Aveline nous dit, écoutez, c'est très gentil, mais vous avez bien vu que les Allemands avaient interdit qu'on se réunisse à plus de 3 ou 4. Nous sommes une dizaine ici. Si jamais ils font une descente, qu'est-ce qu'on va dire ? Alors Agnès Imbert a dit, écoutez, moi je propose que nous formions le groupe des amis d'Alain Fournier. Nous sommes en train de faire préparer l'édition artistique du Grand Môle.
France Culture, 1987, 47 ans après, ça explique que le récit soit parfaitement cristallisé. On devine que cette ruse n'a pas suffi à empêcher le démantèlement de ce groupe pionnier. Christiane Desroches-Noblecourt réussit en revanche à contourner l'hostilité de certains de ses collègues qui lui reprochaient de n'avoir pas voulu prêter serment au maréchal Pétain. Et on devine que beaucoup plus tard, elle se sentira à l'aise pendant la période gaulliste. D'autant que de Gaulle rétablit les relations diplomatiques avec l'Égypte, rompues en 1956 lors de la révolution du Caire et de la nationalisation du canal de Suez. Christiane Desroches-Noblecourt, qui avait obtenu sur place depuis longtemps des responsabilités clés dans l'égyptologie, avait réussi de justesse à maintenir le fil en 56, mais elle sera bien aise de voir le colonel Nasser et le général de Gaulle se rapprocher l'un de l'autre. Tous deux tiennent en effet un langage commun d'indépendance nationale, de non-alignement, et en 1963, des ambassadeurs sont de nouveau nommés. En 1965, André Malraux visite l'Égypte, et c'est à ce moment que naît le projet d'exposition, dans un climat de quasi euphorie dont témoigne ce reportage à la télévision de Panorama.
Vous parlez français ?
Oui, qu'est-ce que vous voulez ?
Qu'est-ce que vous pensez des relations entre la France et l'Égypte maintenant ?
Les relations sont devenues très bien comme il faut actuellement.
Je suis sûr que quelque chose va arriver. Ça veut dire comme l'élection.
Vous en êtes content ?
Oh oui, naturellement. On aura de plus grandes relations. C'est quelque chose de bien, non ?
J'ai un grand espoir pour ça.
Pourquoi ?
Parce que nous sommes en très bon accord avec la France, vu que la langue française marche très bien ici, que notre gouvernement fait tout ce qui est en son possible pour relier la relation de nouveau.
Ah, petit problème, il y a la police qui se demande quel genre de question. Je suis bien en train de poser, là. Mais on va sortir les papiers, j'ai une carte officielle. Pas de difficulté. Finalement, ça s'arrange, on peut continuer.
Un grand enjeu diplomatique à cette époque, c'est le barrage d'Assouan. Nasser tient beaucoup à sa réalisation, les États-Unis s'y opposent et le colonel s'en va chercher l'aide de Moscou. Or, Assouan va noyer la Nubie et submerger ses temples, Abou Simbel, Hamada, Philae. C'est d'ailleurs une des raisons mises en avant par Washington pour refuser le projet. Consciente de la charge mobilisatrice que représente Assouan pour le régime, forte de ses relations avec Nasser, à qui elle aurait fait découvrir l'existence de Champollion. Christiane Desroches-Noblecourt défend l'idée que noyer la Nubie n'empêche pas de sauver les temples si on les démonte et si on les déplace. La France voit dans cette idée une position intermédiaire qu'elle défend. Et l'UNESCO, où elle est alors très influente grâce à son directeur, René Maheu, devient l'opératrice du sauvetage. Un des justificatifs de l'exposition Toutankhamon sera d'ailleurs de donner au gouvernement Nasser un lustre culturel qui lui manquait et de lever des fonds pour la grande Nubiade.
Et alors très vite, le premier homme de votre vie, je l'appelle comme ça, moi, ah. C'est Toutankhamon,
vous savez, écoutez, là, alors non, vous êtes mieux que tous ceux qui disent que je suis amoureuse de Toutankhamon ou que je ne rêve qu'à Ramsès. C'est pas le premier homme, mais c'est le premier pharaon qui m'a intéressée. Parce que, mais qui n'est pas appelé par ce trésor dont on parlait encore, il a été découvert en 22. Et le vidage complet de la tombe avec ses 2000 trésors n'a été achevé qu'en 32. En 32, je faisais déjà de l'égyptologie. Alors tout le monde était intéressé par Toutankhamon. On l'a oublié après. Puis je l'ai remis à la mode sans le faire exprès du reste.
Toutankhamon est-il jamais passé de mode ? En 1922, la date est signalée par Christian Desroches-Noblecourt, la découverte de la tombe par Howard Carter, après des années d'efforts infructueux financés par Lord Carnarvon, avait provoqué une onde de choc. La première tombe royale quasi intacte dans laquelle on n'ait jamais pu pénétrer. La rumeur sur la malédiction qui aurait ensuite frappé les découvreurs avait maintenu la pression. Puis, les travaux scientifiques avaient continué à plus bas bruit, insistant l'un après l'autre sur le peu d'importance historique qu'avait eu réellement ce jeune pharaon, l'ultime de la 18e dynastie. Aux yeux de Christian Desroches-Noblecourt, l'exposition offrait des opportunités de relancer la recherche.
J'ai pu obtenir du ministre de la Culture de la République arabe unie l'autorisation de sortir les objets des vitrines et de les photographier pour la première fois sans l'intermédiaire de ce verre de la vitrine qui ne fait jamais une photographie très nette et surtout dans une atmosphère de les éclairer, penser qu'il n'y a aucune ombre qui transforme la vue de ces objets. C'est extraordinaire.
Alors on a une impression, moi qui les connais bien, j'ai eu une impression de réalité en regardant les photographies.
Oui,
les photographies
je dirais même que j'ai quelquefois mieux étudier l'objet d'après la photographie en couleur telle qu'elle se présente que devant les objets au musée du Caire. On n'avait jamais vraiment étudié l'histoire de Toutankhamon. J'ai essayé, comme on peut le faire avec les morceaux d'un puzzle très 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 dispersé, de reconstituer cette existence dont on ne sait qui était l'homme, qui étaient ses parents, à quelle époque exacte il a vécu, s'il a vécu sous une corrégence ou sans corrégence. C'est infernal.
Comment il est mort ?
Tout vous échappe.
Et oui, le pouvoir aussi a échappé à Toutankhamon. Né Toutankhaton, comme l'avait voulu le grand Akhenaton, le promoteur de la fameuse hérésie de l'histoire égyptienne. Il était devenu pharaon à l'âge de 7 ou 8 ans. Pendant la période de transition couvre son avènement, la caste dirigeante militaro-cléricale reprend la main et l'adolescent meurt très vite, de gangrène semble-t-il, en 1343, avant notre ère, au bout d'une dizaine d'années seulement de règne nominal. Après tout, c'est peut-être le contraste entre son triste destin et la splendeur du masque qui le représente qui émeut aujourd'hui. Et puis aussi, le fabuleux retour de flamme qu'il fait revenir au centre de l'actualité trois millénaires après son effacement. Voici donc qu'au bout de mois et de mois de préparation, l'exposition du Petit Palais ouvre en février 1967, en attendant la longue visite que ne manquera pas de faire le général de Gaulle, le ministre des Antiquités d'Égypte, Saroï Kei Okasha, vieux complice de Christian Desroches-Noblecourt, échange des propos qui vont gagner peu à peu en élévation avec André Malraux, le ministre français des Affaires culturelles.
Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je suis très ému en voyant les trésors de l'Antiquité de mon pays, éclatant d'une beauté toute fraîche dans cette ambiance faite du goût le plus sûr. C'est donc avec plaisir que je constate ici le resserrement des relations culturelles entre mon pays et le vôtre. Trouvons là, mes amis, un symbole merveilleux de l'universalité de la culture.
Il va de soi, monsieur le vice-premier ministre, que la France remercie votre pays pour avoir envoyé ici tous ces objets, c'est une marque d'amitié. Mais l'exposition même vient de m'étonner beaucoup, comme vous-même, car nous avons vu ces objets depuis longtemps au Caire, mais enfin, nous ne les avions pas vus dans d'autres conditions. Et ce qui paraît ici dans cette présentation si particulière, c'est l'incroyable leçon que l'Égypte aura pu donner sur la vie. On a écrit depuis Champollion que c'était le pays de la mort. Cet art qui est si souvent funéraire n'est à peu près jamais proprement funèbre. Autrement dit, l'Égypte n'a jamais connu le squelette. Ce qu'elle allait chercher dans la mort, c'était précisément la suppression de la mort, le fait de concevoir la vie humaine comme une éternité. Vous revoyez comme moi la fresque de la reine Néfertari. Elle va passer dans l'au-delà et elle joue toute seule parce que le personnage qui joue avec elle aux échecs et qui joue son destin, c'est le destin lui-même. L'Égypte antique aura joué cette partie incroyable en face du destin qu'ayant presque exclusivement représenté des morts, elle aura été l'actrice la plus puissante de la vie qu'on ait jamais connue. Non seulement nous vous remercions de l'incroyable leçon donnée à l'humanité, nous vous remercions aussi, je l'ai dit, au nom de la France. Ce vieux pays est aujourd'hui un pays jeune et plein d'énergie. Nous lui souhaitons tout ce que l'on peut souhaiter à un pays ami, dans la paix et dans le bonheur.
L'exposition Toutankhamon II qui ouvre à la Villette présente 150 objets, dont 25 seulement étaient présents en 1967. Elle les montre dans l'ordre chronologique de leur découverte par Howard Carter. Le choix de Christiane Desroches-Noblecourt était différent. Moins d'objets, 32 disent certains, 45 affirmait-elle, et qu'on découvrait dans une manière de parcours funéraire éclairé très habilement dans des salles identifiées par des tentures de tons différents. Aujourd'hui, à la Villette, on parle évidemment d'immersion. À l'époque, au Petit Palais, on parlait à peine de scénographie. Pourtant, Christiane Desroches-Noblecourt s'était montrée experte dans une matière qu'elle connaissait peu auparavant.
Je me suis efforcée, je crois qu'on l'a dû le voir, d'exposer ces objets, non pas uniquement pour souligner leur sens, leur esthétique, leur beauté. J'ai voulu aussi permettre à ceux qui venaient de comprendre leur message. C'est pour cela que je les ai exposés dans un ordre qui n'a jamais été changé. J'ai pu les numéroter, ce qu'on ne fait jamais, on les numérote à la dernière minute. Moi, je les numérotais bien avant. J'ai conçu leur place déterminée. Je les ai mis dans un cadre tel que, en même temps que leur beauté, je crois que le public saisit à quoi ils ont servi et progresse avec Toutankhamon dans les rites funéraires pour connaître non seulement son long cheminement dans les ténèbres et aussi sa résurrection qui se termine par le masque d'or et ensuite à la sortie par ce grand colosse de 8 tonnes qui montre que malgré toutes les vengeances qui ont essayé de s'exercer contre Toutankhamon, il a vaincu ses vengeances, il est glorieux et il revit éternellement. Il y a dans l'avant-dernière salle un problème qui se présente à moi, c'est la salle du marécage. C'est ce marécage que j'ai essayé de reconstituer. J'ai remis le petit dieu Ichi qui est tout noir avec ses yeux d'or, qui joue du sistre et qui appelle sa mère dans les ténèbres où il est en train de se reformer. Il est dans le fond de l'eau. Et pour bien essayer de faire comprendre à ceux qui viennent ce qu'est la symbolique du papyrus et ce mythe extraordinaire qui touche tellement à un mythe scientifique actuel, c'est que tout être doit revenir au néant, à l'abyssos primordial, ce que l'on nous enseigne maintenant. Tout vient de l'eau. L'élément aquatique a donné naissance à tout germe, à toute vie. J'ai essayé de reconstituer ce marécage par cette salle de velours vert glauque et ce petit dieu se détache pour la première fois depuis 3000 ans et on l'avait mis dans la tombe pour qu'il apparaisse derrière les papyrus, derrière un écran de papyrus.
De suite au Petit Palais, le public a afflué, le public attendu et aussi celui qui ne serait pas venu dans un musée. Le public qui avait déjà fréquenté l'année précédente l'exposition Picasso et l'exposition Vermeer, où il s'était agglutiné devant le petit mur jaune qui aurait provoqué la mort de Bergotte dans La Recherche du Temps Perdu. Les compteurs de fréquentation s'affolent. Il faudra prolonger les horaires le soir, prolonger l'exposition au-delà de sa clôture programmée. Et Christiane Desroches-Noblecourt, chaude partisane de la démocratisation culturelle, se réjouit.
J'avais déjà, depuis une dizaine d'années, constaté une affluence sans cesse accrue dans notre département des antiquités égyptiennes au Louvre. Et actuellement, les conférences promenades que nos jeunes adjoints font le mardi dans les salles fermées au public ont été décuplées. C'est vous dire que chaque année, le goût de l'archéologie, de l'égyptologie et même le goût des musées, attiré par la reconstitution tout de même très exaltante d'une vie presque complète d'il y a quelques 4 millénaires, est vraiment quelque chose de visible. Et je dois vous dire que c'est une des plus grandes satisfactions que je connaisse depuis longtemps dans ma carrière.
L'exposition est maintenant faite, tout le monde vient, mais est-ce que vous avez encore des problèmes à l'heure actuelle ?
Les problèmes, oui, il y aura toujours des problèmes, mais ils sont dus au succès de l'exposition, je ne peux que m'en féliciter. Il y a trop de monde, mais je ne peux pas non plus me plaindre qu'il y ait trop de monde. Il n'y a pas assez de place, voilà. On me parlait tout à l'heure de 45 objets, il n'en faudrait que 30 pour recevoir tout le monde, et il faudrait presque mettre un objet par salle. Mais ceci s'arrange, car je n'ai jamais vu un public aussi déférent, aussi patient et aussi gentil que le public qui vient voir Toutankhamon. Ce public est tellement déférent et tellement amoureux des objets qu'il vient qu'il en est émouvant.
Eh bien, j'ai eu la chance d'être la dernière visiteuse de cette magnifique exposition au Petit Palais. Le lendemain de mon retour de vacances, j'ai d'abord téléphoné savoir si l'exposition était prolongée. On m'a dit « elle ferme ce soir à 7h30 ». Alors j'ai téléphoné à mon mari de se précipiter, de venir me chercher. Puis quand j'ai vu que les agents enlevaient les barrières et qu'on allait fermer la porte, alors là, je me suis précipitée, j'ai bousculé un peu le gardien. Il m'a dit « ah, enfin, tout le monde a crié, voilà la dernière ». Je lui ai dit « oui, je m'excuse, mais… » Et Madame Noblecourt s'est approchée de moi et m'a dit « mais Madame, ne vous excusez pas, au contraire, c'est une chance pour vous, car vous allez être comblée ». Puis quelques jours après, on m'a appelée à l'ambassade d'Égypte pour me proposer de partir, si j'en avais la possibilité, de faire un voyage au Caire, enfin en Égypte, pour 15 jours.
Il aurait fallu prévenir cette dame, la dernière visiteuse, qu'elle gagnait un voyage dans un pays défait par la guerre des Six Jours et très meurtri. Mais cette guerre des Six Jours, qui commence en mai 1967, va voir la France épauler Nasser. Et peu de temps après, un autre trésor vivant cette fois viendra à Paris, Oum Kalsoum. Christiane Desroches-Noblecourt poursuivra sa grande campagne pour les temples de Nubie. Toujours très présente en Égypte, elle sera nommée directrice du département des antiquités égyptiennes au Louvre. Elle dit qu'elle appartient à l'inaltérable race des réalisateurs. Alors, ses chers collègues, il faut l'expliquer quand même, sont souvent irrités par son omniprésence, par les erreurs que peut lui faire commettre sa spontanéité. Peu lui chaud, puisque pour le public, elle représente l'égyptologie française en marche.
Penser à soi tout le temps, c'est un peu regarder pousser son nombril. Je crois qu'il vaut mieux s'occuper des autres, en tous les cas, de faire quelque chose d'utile. Et je pense qu'être égyptologue ne consiste pas simplement à rester enfermé dans une bibliothèque, à rechercher des écrits qui peuvent vous permettre de... Ah, mon Dieu, de produire des articles, de sortir des livres ou de contempler pour soi-même des objets d'une civilisation qui vous est chère. Je pense que on doit se projeter en avant et que on a un rôle. On doit donner ce qu'on a trouvé, puisque les égyptologues travaillent peut-être un peu avant les historiens, c'est-à-dire qu'ils aident les historiens à écrire l'histoire et qu'ils l'écrivent aussi. Donc ce que nous avons trouvé ne doit pas rester confidentiel, nous devons le projeter. Ça, je pense que tout être humain est enthousiaste. S'il ne l'est pas, c'est qu'il doit être malade. Mon avis, l'enthousiasme, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des moments moins toniques. Je pense qu'on traverse toujours des moments désagréables dans la vie, mais le tout, c'est de retomber sur ses jambes et puis enfin de rayonner. Enfin, je pense que si on doit laisser quelque chose derrière soi, c'est quelque chose de constructif. Il n'y a que ça qui compte. L'égocentrisme, je trouve, quelque chose d'odieux. Ça m'a toujours... semblait horriblement désagréable d'entendre des gens parler d'eux-mêmes, de leurs petits bobos, de leurs personnes, ou de leurs histoires, ou de leur santé. Je peux pas souffrir quelqu'un qui me raconte ses maladies. Je compatis aux maladies des autres, mais le refuge dans la maladie, l'excuse de la personne qui a eu mal à la tête parce qu'elle est arrivée en retard, personne qui peut rien faire parce qu'elle est de mauvaise santé. Vous avez pas remarqué que ce sont les gens les plus crevés qui arrivent toujours à faire des choses extraordinaires. Ceux qui sont en bonne santé se plaignent quelquefois. Non. Il ne faut jamais parler de soi. Il faut essayer de se dominer.
Morte à 97 ans, en 2011, Christiane Desroches-Noblecourt a publié jusqu'à l'âge de 95 ans. Préparée par Frédéric Martin, cette émission était réalisé par Audrey Ripouille avec à la technique Patrick Henry. Et chaque sortie de Toutankhamon à Paris, la prochaine ce sera dans peu de jours, exige une science du comportement des foules. La science du comportement des foules, c'est le sujet de Mathieu Vidard dans un instant.